Mes chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver. Bonne année à toutes et à tous. On se souhaite mutuellement une bonne santé, beaucoup de musique et beaucoup de belle musique. Mais la belle musique, nous l'avons ici à Monaco avec notre merveilleux orchestre philharmonique. Alors, nous poursuivons l'histoire de notre orchestre. Et aujourd'hui, ma foi, la séance va porter sur les premières années du règne d'Albert Ier. C'est pour ça que j'ai demandé à une spécialiste de la musique d'Albert Ier, Raphaël Doublier, d'être ici. Elle était déjà venue la fois dernière, mais comme elle est spécialiste de cette époque, tout à l'heure, elle interviendra, je suis sûr, avec beaucoup de plaisir. Et nous l'écouterons avec beaucoup de plaisir. Rappel des épisodes précédents, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, qui ne s'appelait pas orchestre philharmonique à cette époque-là, donc notre orchestre est né en 1856 de la volonté du prince Charles III, qui voulait offrir des divertissements musicaux aux joueurs du casino. Parce que ce qui était important pour lui, c'est que les gens viennent au casino. Et ma foi, ils jouaient. Et puis, dans l'après-midi, ils pouvaient entendre l'orchestre. Ils rejouaient encore. Et puis, le soir, ils pouvaient entendre l'orchestre. Et puis, après, ils pouvaient ensuite finir de perdre leur argent sur les tapis verts. Et il y avait, à cette époque-là, deux séances d'orchestre. L'orchestre jouait l'après-midi et jouait le soir. Et cela a duré pendant des années et des années. Comme je disais la fois dernière, c'est quelque chose qui aurait été évidemment impossible à notre époque. Ce n'était pas du tout syndical de jouer deux fois dans la journée. Alors, on répétait le matin, et puis on jouait l'après-midi, et on jouait le soir. Alors, au début, l'orchestre était un petit orchestre d'une vingtaine de musiciens, sous la direction de Eusèbe Lucas, qui fut le premier directeur de l'orchestre. Et c'est un personnage auquel je tiens particulièrement, puisqu'il était à la fois un musicien et un journaliste. Le musicien, donc, il dirigeait l'orchestre, et journaliste, et bien c'est lui qui a créé le journal de Monaco. Il s'appelait l'Éden au début, et puis il est devenu le journal de Monaco. Et c'était un journal d'information générale, et qui est devenu le journal officiel de Monaco. Vous pouvez aller sur Internet, c'est le journal de Monaco qui donne les informations officielles de la principauté. Et bien, ce journal a été créé par le chef d'orchestre de l'orchestre, Eusèbe Lucas. Bon, lui-même a été directeur pendant une dizaine d'années, après quoi est arrivé à la tête de cet orchestre un chef d'orchestre qui s'appelait Roméo Accourci, qui était le neveu d'un grand compositeur qui était Donizetti, grand compositeur Donizetti, et son neveu avait un certain charisme et une certaine notoriété en France, et donc on l'avait fait venir de Paris pour diriger cet orchestre. Il resta une petite quinzaine d'années. Il favorisa bien entendu le répertoire italien, et c'est sous sa direction que l'orchestre passa de 20 musiciens, où il était au milieu du 19e siècle, à 70 musiciens. Il y avait déjà 70 musiciens en 1870, quand Roméo Accourci était aux affaires. Et c'est également à cette époque-là, en 1879 également, précisément, que fut construit en un temps record, en 6 mois, le casino, l'opéra de Monte-Carlo, sous la direction de l'architecte Charles Garnier, qui avait été l'architecte de l'opéra de Paris. Et je rappelle que Charles Garnier faisait là un cadeau à la principauté de Monaco pour remercier la principauté de Monaco d'avoir largement financé la construction de l'Opéra de Paris. On sait assez peu que si l'Opéra de Paris a été construit, a été terminé en 1875, après que la France fut ruinée par la guerre de 70, c'est parce que Monaco a abondé en argent. Et donc, pour remercier la principauté, Charles Garnier est venu construire en un temps record l'opéra que nous connaissons, le splendide opéra de Monte-Carlo, qui était à l'origine pas un opéra, en fait, c'était la salle de concert. C'était une salle qui était dédiée à notre orchestre, et elle est devenue évidemment très rapidement une scène d'opéra. Nous sommes en 1889, Charles III décède et Albert Ier devient le prince de Monaco. Alors, Albert Ier aimait les arts, ça c'est évident, et je pense qu'avec avec Raphaël, on vous le confirmera tout à l'heure, mais il aimait surtout la mer. C'était le grand explorateur que vous savez. Il a fait 28 campagnes scientifiques sur les mers et les océans du monde. 28 campagnes, ce qui est absolument considérable. Et ça entraînait d'ailleurs qu'il fut absent très longtemps. Chaque fois qu'il partait en expédition, c'était pour 3, 4, 5, 6, 7 mois. Et pendant ce temps-là, il n'était pas là. Alors, les sujets monégasques n'étaient pas très, très contents. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, même s'ils aimaient leur prince, même si Albert Ier fut un bon prince pour la principauté, c'est quand même une des raisons pour lesquelles, en 1910, on arriva à la fameuse révolution de Monaco, parce qu'il y a une révolution à Monaco, et la principauté, au début du mois de janvier 1911, se transforma de monarchie absolue qu'elle était en monarchie constitutionnelle. Et ça a été une révolution pour la principauté. Alors, on en parle plus trop maintenant, mais enfin, il faut savoir qu'il y a eu ce grand bouleversement historique et politique en 1911 à Monaco. Et c'est là que nous nous arrêterons d'ailleurs pour aujourd'hui. 1911 a correspondu également à l'arrivée des ballets russes. Ça sera pour la prochaine fois, la période après la Révolution. Une des premières décisions, j'allais dire musicales importantes, de Albert Ier et de sa femme, oui, parce que arrivant au pouvoir en 1889, non seulement Albert Ier est monté sur le trône, mais il s'est remarié avec la princesse Alice Hine, qui fut la première princesse américaine de Monaco, puisqu'elle était américaine. Souvent, on dit la princesse Grace est la première princesse américaine. Non, il y a eu une première princesse américaine. Ce fut l'épouse de Albert Ier. Albert Ier avait été marié 20 ans plus tôt avec la princesse Victoria, dont il s'est divorcé quelques mois après. Leur union a été vraiment éphémère. Elle a simplement permis de donner la naissance au futur prince Louis II. Mais comme je vous disais, je crois, la dernière fois, que son père, Albert Ier, n'a connu que lorsqu'il eut 10 ans. Parce que sa femme l'avait interdit, à raison du divorce, de voir son fils. Voilà. Et donc, voilà pourquoi les relations entre Albert Ier et Louis II n'ont jamais été extrêmement chaleureuses. Le père n'a connu le fils, même pas à la naissance, il n'a même pas vu naître, il l'a connu que lorsqu'il eut 10 ans. Donc, en 1889, Albert Ier se marie avec Alice Hine. Et Alice Hine, elle va s'ennuyer pendant que son mari est sur les mers, elle est sur les océans du monde. Et comme elle aime la culture, c'est une femme de culture, eh bien elle va favoriser l'essor de la culture en principauté et en particulier l'essor de l'orchestre, de notre orchestre. Parmi les décisions qu'elle prit, évidemment avec son mari, le prince Albert Ier, il y eut ce dont nous avons parlé la fois dernière, la nomination de Raoul Gainsbourg. Raoul Gainsbourg a été le mythique, le légendaire directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Il est resté 60 ans à la tête de cet opéra, et c'est grâce à lui que sont venus justement les ballets russes, les grands compositeurs comme Saint-Saëns, comme Massenet, dont nous parlerons tout à l'heure. Ça a été évidemment la présence de Raoul Gainsbourg, une période extrêmement faste dans la vie musicale monégasque. La première décision que prit musical, artistique, que prit Raoul Gainsbourg, c'est, et j'en parlais très rapidement la fois dernière, donc je vais peut-être insister un petit peu plus, je vais revenir là-dessus pour y insister un tout petit peu plus, ce fut la création mondiale de la Damnation de Faust de Berlioz. Cet opéra, qui est considéré comme des plus grands, plus célèbre opéra du monde, la Damnation de Faust, eh bien, a eu sa création mondiale ici à Monaco à la fin du 19e siècle, après la mort de Berlioz. Hein, Berlioz était mort. Qu'est-ce que c'était que la Damnation de Faust ? La Damnation de Faust était à l'origine un oratorio. Un oratorio, c'est une œuvre musicale dans laquelle les chanteurs, accompagnés par l'orchestre et un chœur parfois, racontent une histoire. Mais Berlioz n'avait pas conçu cette œuvre pour être un opéra. Et Gainsbourg a dit, mais on peut en faire un opéra. On peut en faire un opéra. Et il l'a mis en scène lui-même de façon tout à fait extraordinaire. Berlioz, comment dirais-je, était un petit peu attaché à la... Ou du moins, la principauté de Monaco était attachée au souvenir de Berlioz. Parce que Berlioz était venu ici en 1868, quelques mois avant sa mort, séjourner, enfin, il avait visité la principauté de Monaco. Il avait fait une grande tournée en Russie qu'il avait épuisée et il avait décidé de venir se reposer sur la Côte d'Azur à Nice, qu'il connaissait déjà. Il avait fait deux séjours à Nice, l'un parfaitement romanesque, je ne vais pas vous raconter cela, dans lequel il avait imaginé de tuer sa fiancée qui lui avait été infidèle. Mais il n'était pas allé au bout de ses actes. Et donc il revenait à Nice, où il avait passé comme les 20 plus beaux jours de sa vie, comme il dit dans ses mémoires. Donc, il revenait en 1868 à Nice. Et puis, il a eu l'idée de venir se promener à Monaco. Et là, mal lui en a pris, puisque sur le plateau des Spélugues... Hein, alors, c'était la naissance de Monte Carlo à cette époque-là, 1868, mais tout était en chantier. Et donc, il descendit vers la mer, un peu peut-être par ici, là, comme ça. Il fit une chute, et une chute assez grave, puisqu'on le ramassa dans du flaque de sang, comme, d'après ce que racontent les journaux de l'époque. Et qu'est-ce qui le ramassa ? C'était les ouvriers qui construisaient le train. Parce que... En 1868, on construisait le train qui allait arriver à Monaco et qui allait d'ailleurs révolutionner l'histoire du tourisme de Monaco. Donc, sur le chantier du train, là, il avait dû venir, je ne sais pas, et puis il était tombé. Donc, on l'avait ramassé, il avait été soigné à l'hôtel de Paris. Et ensuite, il était revenu à Nice, puis il était reparti à Paris. Mais il était mort peu de temps après. Hein, peu de temps après, cette chute à Monaco avait un petit peu précipité sa mort. Et donc, Monaco était redevable, d'une certaine façon, à la mémoire d'Hector Berlioz. Et Raoul Gainsbourg décida donc de créer la Damnation de Faust, du moins de transformer l'oratorio la Damnation de Faust en un opéra. Et ceci fut tout à fait extraordinaire. Alors, il y a eu des journalistes de la France entière qui vinrent ici assister à cette représentation. Et voilà le rapport... Le compte-rendu qu'en fit le journal de Monaco. La mise en scène avait été faite par Raoul Gainsbourg. Raoul Gainsbourg avait imaginé les décors les plus fastueux qui soient possibles à cette époque-là. Il y avait même un cyclorama qui défilait et qui donnait l'impression que les chevaux cavalaient, galopaient vers l'enfer. Enfin, c'était tout à fait extraordinaire. Voilà le compte-rendu du journal. Samedi, la première représentation de la Damnation de Faust de Berlioz a été un événement de la plus grande importance pour le monde musical. Monsieur Raoul Gainsbourg a tenté avec un immense succès à la scène ce qu'on fait depuis longtemps déjà devant un public spécial, messieurs Pas de Loup et Colonne, à Paris. Padeloup, entre parenthèses, Padeloup qui avait pris au début, quelques mois, la direction de l'Opéra de Monte-Carlo. Et c'est lui qui avait fait venir ce chef d'orchestre qui avait suivi Romeo Accursi, qui s'appelait Arthur Steck. Mais ça, je vous en avais parlé la fois dernière. Donc, ceux-ci ont démontré que l'œuvre du grand musicien, incompris de ses contemporains, était véritablement marquée en certains endroits du sceau du génie et que Berlioz avait droit à sa place parmi les grands compositeurs français. Ceci signifie que Berlioz n'était pas très, très apprécié à cette époque-là. Hein. C'était un compositeur moderne. Ah, c'était la musique moderne, d'une certaine façon. Hein. Monsieur Gainsbourg a prouvé, ce qui jusqu'ici avait été toujours nié, que cette œuvre pouvait réussir sur une scène lyrique, la partition d'une main, le poème de Goethe dans l'autre. L'habile directeur du théâtre de Monte-Carlo a édifié un véritable monument théâtral. Ce que nous avons vu samedi soir est donc, comme nous le disions plus haut, un véritable événement. Un public d'élite assistait à cette solennité, à laquelle étaient conviés en outre les maîtres de la critique, les principaux journaux de Paris, un grand nombre de représentants de la presse étrangère et tous nos confrères du littoral avaient été conviés. Divisée en 12 tableaux, la pièce est montée avec un luxe inouï de décors et de machinerie. On sait que le fantastique joue un grand rôle dans le roman de Faust. Songe, apparition, féerie, tout a été traité avec une hardiesse et un talent qu'on ne s'attendait pas à voir si bien réussir sur une scène dont les dimensions se prêtent peu à un développement de toile, à des défilés nombreux et à l'exécution de trucs comme ceux qui ont été mis sous nos yeux. Voilà, ensuite, le journaliste loue toute la machinerie, les corps, il cite le nom des machinistes, etc. Et signale évidemment que les artistes ont été au plus haut niveau. La soprano était Madame Dalba. Madame Dalba, bon, on ne connaît pas, je ne sais pas, on n'a plus entendu parler. Simplement, elle devint la femme de Raoul Gainsbourg. Voilà. Bon, alors c'est peut-être pour ça qu'il l'avait choisi, mais bon. Quant au ténor, alors c'était un grand ténor qui, lui, est bien connu dans l'histoire de la musique de cette époque-là. C'était Jean de Reszke, qui était un ténor polonais. Alors, on va marquer une petite pause musicale et je vais vous faire entendre un petit extrait de la Damnation de Faust. Et c'est tout simplement la danse des sylphes. Et puis on reprendra le cours de l'histoire. La jolie danse des sylphes de la Damnation de Faust de Berlioz, dont l'autre passage musical symphonique le plus célèbre est évidemment la célèbre marche de Rákóczi que l'entend. Et on salue le directeur de l'Orchestre Philharmonique qui vient ici. C'est un grand honneur, cher Didier, de vous accueillir. Alors, je vais quand même vous donner quelques repères de l'histoire de Monaco avant de poursuivre de parler de l'histoire musicale. Albert Ier est arrivé au pouvoir en 1889. Que s'est-il passé cette année-là ? Eh bien, ce fut l'année de l'exposition universelle de Paris, la fameuse exposition universelle où a été construite la Tour Eiffel. Alors, c'est dire, c'est une exposition universelle de grande importance. Et c'est peut-être la première fois que la principauté de Monaco participa de manière importante à cette exposition universelle. Et Albert Ier, dans le pavillon de Monaco, présenta au monde quelques-unes des recherches qu'il avait faites dans ses premières expéditions autour du monde. 1891, important pour la principauté de Monaco, mais surtout pour le prince Albert Ier, c'est le lancement du Princesse Alice. Alors, le Princesse Alice était un bateau, un bateau sur lequel le prince Albert allait désormais faire ses expéditions autour du monde. Et évidemment, il l'avait dédié à sa femme. La princesse Alice, qui regrettait tellement de le voir partir et qu'il a laissé seul en principauté. Mais voilà, donc il rendait hommage en donnant son nom au nom de son bateau. 1891 fut également une année importante, alors qui nous concerne dans l'histoire musicale, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est le prince a été élu comme correspondant de l'Académie des sciences à Paris. Il était considéré comme scientifique à cause de ses recherches, et c'est là qu'il rencontra son cher collègue Camille Saint-Saëns, qui était lui, qui faisait partie de l'Académie des Beaux-Arts à l'Institut de France. Donc, il participait à des réunions communes et il s'écrivait « Mon cher confrère ». Voilà. Et cette rencontre avec Saint-Saëns, mais nous en parlerons peut-être mieux tout à l'heure avec Raphaël, a été évidemment importante et même déterminante pour l'histoire de la musique à Monaco. Ensuite, 1897, autre événement important, le lancement du Princesse Alice II. Il a fait construire un nouveau bateau pour ses prochaines expéditions océaniques, et ce fut le Princesse Alice II. Et avec ça, il a fait 12 campagnes, dont une au Spitzberg, une en 1901, où il est descendu, je lis mes notes là, à une profondeur de 6000 mètres, ce qui certainement était déjà très important à l'époque. 1899, la pose de la première pierre du musée océanographique. Alors, le musée océanographique, c'est évidemment le bâtiment le plus emblématique du règne d'Albert Ier. Et nous en parlerons tout à l'heure avec Raphaël. Vous verrez à quel point le monde entier, ou du moins l'Europe des sciences, vint. Et pour l'inauguration de ce musée océanographique, Albert Ier avait commandé deux œuvres, l'une à Saint-Saëns et l'autre à Massenet. Des œuvres dont l'une a été recréée il y a deux ans au Palais Princier de Monaco, l'œuvre de Camille Saint-Saëns. C'est tout à fait émouvant de savoir que cette œuvre a été créée pour l'inauguration du musée océanographique. 1903, j'ai noté aussi que Albert Ier s'intéressait, non seulement aux arts, je l'ai dit, c'est le sujet aujourd'hui, mais à la mer, ça vous le savez, mais également au sport automobile, au sport mécanique, je veux dire. Et c'est là, et nous, je crois que nous avons, c'est là qu'on vit le prince Albert Ier se déplacer sur des engins mécaniques. Voilà, ceci, c'est la... la motocyclette mécanique du prince Albert Ier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prince Albert Ier ne se contentait pas d'aller du palais au port et de remonter. Non, il traversait la France. Il traversait la France et vous imaginez l'état des routes en 1905-1910. Donc il y avait une voiture qui le suivait quand même, hein, pour pas que la principauté perde son prince. Mais ben voilà, il allait jusqu'à Paris, il allait jusqu'au château de Marché dans l'Aisne, voilà, sur cet engin qui est ici. Et il continua à s'intéresser au sport mécanique, puisqu'il fit en 1907 son baptême de l'air sur un dirigeable qui était le Ville de Paris. Et il fit également la première expérimentation, l'expérimentation d'un premier hélicoptère construit ici à Monaco par un ingénieur qui s'appelle Maurice Léger. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, mais voilà l'intérêt du prince Albert Ier pour les sports mécaniques. 1910, inauguration du musée océanographique, hein, et du lycée de Monaco. Et je vais terminer, puisque nous arrêtons aujourd'hui en 1911, je vais terminer sur le dernier événement de 1911 et qui reste encore le premier rallye automobile de Monaco. Hein, alors, vous imaginez ce qu'était le rallye automobile en 1911, hein, c'était tough, hein, mais voilà, donc c'est le prince Albert Ier qui a lancé cela. Alors, pendant tout ce temps-là, eh bien, la musique a quand même rayonné, grâce essentiellement à Raoul Gainsbourg, comme je vous le disais. Alors, évidemment, il serait fastidieux que je vous lise tous les programmes, parce que je les ai lus, les historiens lisent, Raphaël les a lus aussi. Hein, mais simplement, il faut savoir qu'il y avait une programmation très riche, avec les œuvres symphoniques des compositeurs de l'époque, dont on a oublié le nom, avec les opéras des compositeurs de l'époque et également, et puis avec les grands opéras de Verdi, de Gounod, bien entendu aussi. J'ai noté comme ça un petit peu à la hâte, par exemple, en 1894, un opéra de César Franck qui s'appelle Hulda. On n'a plus du tout entendu parler de cela. En 1880, un opéra de Lalo qui s'appelle La Jacquerie. On ne connaît plus ça. C'était en fait la musique contemporaine de l'époque. C'était très audacieux de Raoul Gainsbourg de programmer. Au niveau symphonique, une symphonie de Vidor, qui était le grand organiste. La lumière de l'Asie d'Isidore Lara. Ah, alors, Isidore Lara, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si je vous ai dit, je racontais la fois dernière, et je m'excuse si je l'ai fait, ou alors vous m'arrêtez tout de suite. Isidore Lara avait un rôle, c'était un compositeur d'un certain talent, d'origine anglaise, qui avait un rôle un petit peu particulier dans la principauté. Parce que lorsque Albert Ier allait sur les océans du monde, la princesse Alice rencontrait Isidore Lara, qui était devenu tout simplement son amant, quoi, pour être clair. Et un jour, on vit sur le mur du palais un graffiti qui a été évidemment effacé extrêmement rapidement, mais il est resté quand même suffisamment longtemps pour que les historiens le remarquent. Ce graffiti, c'était « Ici dort Lara ». Voilà. Voilà. Et donc, Isidore Lara a été assez souvent programmé à cette époque-là. Alors, en 1895, c'était un oratorio qui s'appelle « La lumière de l'Asie ». Voilà. Également, du Wagner. Raoul Gainsbourg avait pratiquement, dès qu'il est arrivé, enfin du moins la seconde année, programmé, c'était audacieux de sa part, Tristan et Isolde de Wagner en français, traduit par Catulle Mendès, qui était venu faire une conférence. C'était très audacieux de sa part. Et il a programmé pas mal de Wagner par la suite. Voilà, Les Adieux de Wotan, j'ai noté en 1895. 1896, voilà, un opéra qui s'appelle Mirka, d'un compositeur qui s'appelle André Polonais, qu'on a complètement oublié. 1897, La Reine de Saba, d'Isidore Lara. La symphonie de Franck n'avait jamais été jouée, mais elle a été jouée cette année-là. Mort et transfiguration de Richard Strauss en 1898. Messaline, un opéra d'Isidore Lara. Etc. etc. Je vais pas être fastidieux en lisant tout ça, mais il faut savoir qu'il y avait donc une activité intense qui était soulignée par les grands journalistes français et étrangers. Voici ce que le critique Francisque Sarcey disait dans Le Temps. Le Temps, c'était le journal Le Monde de l'époque. Gainsbourg est venu et il a fait de ce théâtre un vrai théâtre. Pour la première fois depuis que le casino existe, on a vu à Monte-Carlo des opéras joués 8 ou 10 fois de suite devant des salles combles, devant des publics attentifs et même recueillis. Gainsbourg peut se vanter d'avoir accompli un joli tour de force. Il a révolutionné le pays, me disait un des administrateurs de la maison. Ouais. Voilà ce que disait le Figaro en 1894. On va maintenant à Monte-Carlo comme on va à Bayreuth. Aucune scène parisienne ne peut nous apporter tant de splendeur et tant de variété. Vous voyez la notoriété qu'avait l'orchestre et l'opéra à cette époque. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas... parce que la notoriété contemporaine de notre orchestre est... notre orchestre qui va partir la semaine prochaine en tournée, qui va jouer lundi prochain au Concertgebouw d'Amsterdam, qui est une des salles les plus prestigieuses d'Europe et du monde, eh bien, notre orchestre y sera. Mais voilà, mais à cette époque-là aussi, c'était évidemment parfaitement prestigieux. Je vais faire une toute petite pause musicale et puis nous reprendrons le cours de cette histoire. Je vais vous faire entendre une œuvre que le public monégasque a découvert à cette époque-là, une œuvre de Gabriel Fauré. Gabriel Fauré aura son importance au-delà de 1911, mais déjà il était programmé, là je vois en 1899, avec une berceuse. Vous voyez, on aime les berceuses. Hein. Si vous avez constaté, la fois dernière, on écoutait la berceuse de Lechner, mais on va entendre la berceuse de Gabriel Fauré, qui est extrait de Dolly. Hein, et voilà ce que disait le journal de Monaco. Exquise est la musique écrite par Gabriel Fauré. On y retrouve l'infinie délicatesse de touche, l'originalité constante, la recherche de modulations neuves et curieuses qui caractérise le talent si personnel de l'admirable maître. C'était le courrier musical et artistique du littoral. Enfin, c'est un journal de notre époque. Voici Berceuse de Dolly de Gabriel Fauré. voilà la musique que le public de l'orchestre symphonique de Monte Carlo à cette époque-là ont découverte, cette belle musique de Gabriel Fauré. Plus tard, donc ce sera pour la prochaine fois, ils découvriraient aussi l'unique opéra que Gabriel Fauré a composé, Pénélope, et nous en parlerons la prochaine fois, et ceci un petit peu dans le cadre de l'amitié qui a existé entre Gabriel Fauré et le prince Albert Ier. Mais le prince Albert Ier, je vous le disais tout à l'heure, a été particulièrement ami de deux autres compositeurs, Saint-Saëns et Massenet. Et nous allons en parler dans quelques instants avec Raphaël, qui connaît parfaitement le sujet. Auparavant, je vais évoquer un événement musical qui a eu lieu. Enfin, c'était à la fois un événement musical et sculptural qui a eu lieu en 1903, parce qu'on en trouve toujours trace au début du jardin du casino, c'est l'instauration de la statue de Berlioz. Et vous connaissez, lorsque vous allez au casino, lorsque vous allez à l'opéra, vous passez devant la statue de Berlioz. Et l'inauguration de la statue de Berlioz a donné lieu à une grande festivité musicale. Ça s'est passé en 1903 pour le centenaire de ce grand compositeur qui était venu en Monte Carlo, je vous ai raconté, dont la damnation de Faust avait été créée à Monte Carlo. Et donc, pour le centenaire, eh bien, on avait inauguré cette statue. Et un monde considérable était venu, le monde des arts de France, le ministre de l'Éducation nationale français s'est déplacé, le prince était là. Et Massenet était là. Et Massenet a écrit un très beau discours. Et ce discours, je l'ai ici, je vais quand même vous lire, enfin, je vais vous en lire un extrait pour montrer combien Massenet écrivait bien et avait du respect pour Hector Berlioz. Vous voyez, vous imaginez devant ce. Alors là on voit Massenet. Hein. Ça, c'est la statue de Massenet qui a été inaugurée plus tard, mais la statue Berlioz, c'est celle que nous avons vue avant. Donc, voilà le discours qu'au pied de cette statue, Massenet a tenu. « Monseigneur, puisque Albert Ier était là, hein, mesdames et messieurs, c'est le propre du génie d'être de tous les pays. À ce titre, Berlioz est partout chez lui. Il est le citoyen de l'entière humanité. Et pourtant, il passa dans la vie sans joie et sans enchantement. » On peut dire que sa gloire présente est faite de ses douleurs passées. Incompris, il ne connut guère que des amertumes. On ne vit pas la flamme de cette énergique figure d'artiste. On ne fut pas ébloui de l'auréole qui la couronnait déjà. C'est bien dit, hein, tout ça. Hein ? N'est-ce donc pas une merveille singulière de voir cet homme qui avait de son vivant l'apparence d'un vaincu, créature malheureuse et tourmentée, chercheur d'un idéal qui toujours semblait se dérober, musicien de misère souvent lapidé, se redresser après sa mort, ramasser les pierres qu'on lui jetait pour s'en faire un piédestal et dominer tout un monde. C'est bien dit tout ça, hein, quel écrivain ce Massenet. Le voilà donc sur son rocher à Monte-Carlo, le Prométhée musicien, l'Orphée nouveau qui fut déchiré par la plume des écrivains, comme autrefois l'ancien par la griffe des Ménades. Mais le rocher est ici couvert de roses, l'aigle dévorant s'est enfui pour toujours. Berlioz y connaîtra dans l'apothéose le repos qu'il chercha vainement dans la vie. La mort, c'est l'apaisement, et cet autel de marbre, c'est la déification. Le long de ces pentes fleuries qui montent en serpentant vers le ciel, son esprit d'illusion croirait voir la Vierge avec Jésus gravissant la rude montagne pour se diriger vers Bethléem. Voici les palmiers qui abritèrent l'enfance du Christ. Alors, l'enfance du Christ, je vous dis, c'est quand même une œuvre de Berlioz. Hein, c'est à ça qu'il fait, c'est dans ça qu'il fait allusion, un oratorio de Berlioz. Tournons-nous donc vers celui à qui Berlioz a dû cette rosée bienfaisante. Remercions ce prince de la science qui est aussi le protecteur des arts, voyez, un hommage à Albert Ier. Et cette terre qui semble un paradis, si chaude et si colorée, en ce jardin des Hespérides qu'aucun dragon jaloux ne garde, dans ses transparences et dans ses clartés, il nous apparaît en vérité comme le roi du soleil. Hein ? Hein, il s'exprimait bien, Massenet, hein, voilà, devant cette statue et ce grand événement où tout l'orchestre était là, bien entendu, l'orchestre était rassemblé, joie du Berlioz. Voilà, cet événement a lieu en 1903. Alors, nous allons consacrer le dernier quart d'heure ou les 10 dernières minutes aux relations entre Saint-Saëns et Massenet et le prince Albert Ier. Raphaël, si vous voulez venir, je ne sais pas, voilà, vous avez... Donc, c'est Saint-Saëns que Albert Ier a connu d'abord, je vous ai dit, en 1891, lorsqu'il a été nommé correspondant scientifique de l'Académie des sciences à Monaco. Et ensuite, ma foi, ils se sont... il va falloir que vous parliez dans le micro parce qu'on est enregistré. Hein. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. Parce que nos propos sont gardés pour la postérité. Hein, quand au siècle suivant on évoquera l'histoire de l'orchestre, eh bien on retrouvera nos voix. Une grande amitié entre Saint-Saëns et Albert Ier.
Exactement, il y a une grande amitié parce que justement ils se fréquentent, mais c'est aussi une tradition, puisque déjà sous Antoine Ier, chaque prince lie des amitiés avec aussi bien des littéraires, des hommes d'État, de tout ce qui est aussi artistique. Mmh. Et notamment, ces liens sont très forts évidemment par leur passion commune, justement comme vous l'avez évoqué, ils se rencontrent dans le monde justement scientifique. Et donc, pour l'inauguration dans le programme musical, le prince va demander justement à Massenet, à Saint-Saëns, comme M. Perrègne vous l'a évoqué tout à l'heure, deux œuvres. Ouverture de fête veut bien dire ce que ça veut dire dans son titre. C'était la fête, c'est l'ouverture du musée océanographique, un immense événement mondial, parce que ce prince était scientifique, mais aussi il était sensible à la musique. Alors, ouverture de fête et pensée d'automne de Massenet ont été recréées lors des 100 ans de l'inauguration du musée océanographique. J'ai eu l'honneur, avec M. Franck Lavauger, d'interpréter ces deux œuvres en duo de basson devant tout le monde lors justement de ce centenaire. C'était très émouvant et on a pu aussi, parce que j'insiste sur ça, le prince était très sensible, mais vous avez compris qu'il était et musicien et scientifique. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais aux archives audiovisuelles, M. Vatrican conserve un véritable trésor. En tant que scientifique et aimant la musique, nous avons des preuves que sur les bateaux, le prince avait des musiciens. On a des enregistrements. En tant que scientifique, il adorait justement toutes les nouveautés et il enregistrait sur cylindres de cire les musiques et tout ce qu'il pouvait capter. Lors de ces 100 ans, entre les deux parties musicales que nous avons interprétées pour la première fois en duo de basson, parce qu'on n'avait pas tout un orchestre qui après a été repris, nous avons pu redécouvrir pour la première fois aussi la voix du prince Albert Ier. C'était, devant tous les monégasques qui étaient là, un grand événement. Nous avons pu aussi entendre, donc on a des parties, des extraits, on n'a pas de Massenet ou de Saint-Saëns, par contre, dans les cylindres de cire, mais dans ces cylindres qui sont altérés ou pas, on a des extraits, on entend et il y a vraiment des morceaux sur les bateaux. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que le prince, en effet, est un scientifique. Il est là à la pointe en train d'enregistrer les moindres sons, que ce soit les animaux dans son domaine et également donc dans sa chasse, puisqu'il chassait, c'était un chasseur. Si M. Giraudon était là, lui qui a écrit donc le livre sur la chasse et Albert Ier, vous direz que c'était était aussi un chasseur. Il chassait pour la science, pour remettre, et notamment le musée, et toutes ses recherches et le résultat. Mais justement, il faut aussi voir que cette pensée était extraordinaire. C'était quelqu'un qui était extraordinaire, qui était chasseur, qui était scientifique, hein, qui aimait la musique, qui était dans un bain musical et qui propulsait justement sa principauté et son orchestre justement dans une émulation artistique contemporaine et extraordinaire. Donc, bien sûr, ça continue toujours et le rayonnement de la principauté à travers les arts aussi toujours. Et ces liens aussi artistiques qu'entretiennent toujours aussi la princesse Caroline, notamment dans les liens des compositeurs. Et je veux aussi insister sur ces fameuses commandes où le prince Albert Ier avait fait ses commandes ouverture de fête et pensée d'automne à Massenet et ouverture de fête à Saint-Saëns, parce que justement les commandes, je vous en prie. Exactement.
Oui, la nef triomphante, voilà ce qui me semblait, oui.
Tout à fait. Il y a eu plusieurs œuvres qui ont été créées. Et nous, ce que l'on a joué, parce que dans tout le programme qui a existé, vous avez tout à fait raison, et en fait, dans tout le programme qui a existé, il y a la nef triomphante qui était pour orchestre, et nous avons repris qui ne fait pas partie, donc ouverture de fête ne fait pas partie de la nef triomphante. C'est une autre œuvre qui a été également composée pour l'ouverture du musée océanographique. On n'a fait qu'une sélection pour les duos de basson que nous avons fait. Nous avons fait qu'une sélection en accord justement avec le Palais Princier et ce n'est pas la même œuvre. Voilà. Et en effet, il y a eu plusieurs commandes et ces commandes justement étaient, nous on a pris la toute petite qui permettait de pas prendre dans la manifestation du centenaire. Voilà, tout à fait.
Non, mais tout ça est évidemment tout à fait intéressant et pour la proximité d'Albert Ier avec les compositeurs et avec Gabriel Fauré, dont on parlera la fois prochaine. Alors, cela a permis donc à Albert Ier de faire jouer une quantité d'œuvres de Camille Saint-Saëns et certaines en création mondiale. Alors, qui ont été reprises, là encore, récemment, par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je pense à Hélène et je pense à L'Ancêtre, hein, qui a été donné lors de la saison dernière. C'était une grande audace de la part du prince Albert Ier que de faire jouer ses œuvres. Et il y a une dizaine d'œuvres de Camille Saint-Saëns qui ont été soit jouées, soit créées, des opéras qu'on a complètement oubliés et que l'Orchestre Philharmonique a eu la bonne idée de remettre au goût du jour. Je vais vous faire juste une petite respiration musicale avant de terminer. L'ouverture, c'est l'ouverture d'Hélène. Hélène, c'est l'histoire d'Hélène de Troie et qui a été le premier opéra de Saint-Saëns créé ici grâce à Albert Ier et Raoul Gainsbourg à l'Opéra de Monte-Carlo. Thank you. donc ça c'était un extrait d'Hélène qui a été créé donc ici en 1905 et bon, devant le succès de cette œuvre qui a suscité un grand enthousiasme à la fois du public et des critiques, Albert Ier a demandé à Saint-Saëns de créer une autre œuvre et ce fut l'Ancêtre, bien qui a été alors qui était enregistré d'ailleurs par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, mais ça on en parlera je pense longuement parce qu'on fera une séance sur les disques qui ont été enregistrés par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Et c'est une grande discothèque hein, qu'a enregistré notre orchestre. Peut-être qu'on n'en a pas conscience, mais il y a vraiment des disques de grande valeur. Et les enregistrements continuent d'ailleurs. Une particularité, l'année suivante, enfin non, c'était en 1909, le prince Albert Ier demande à Saint-Saëns de faire une musique de scène, alors pour quelque chose qu'on a complètement oublié, hein, c'est pour une pièce qui s'appelle La Foi, F-O-I, hein, La Foi, d'un académicien français qui s'appelait Eugène Brieux. Voilà. Et donc Saint-Saëns a composé cette musique et voilà ce que dit le journal de Monaco, la gloire incontestée du plus illustre des musiciens français contemporains et la grande renommée du nouvel académicien suffisaient chacune de son côté à éveiller l'intérêt passionné du public. Leur rencontre inattendue avait surexcité sa curiosité. La partition considérable que M. Saint-Saëns a écrite pour accompagner les scènes les plus émouvantes, colorées, pittoresques et savantes, contient quelques-unes des meilleures pages de l'illustre compositeur. Les auteurs qui assistaient à la première représentation de leur œuvre dans la loge de son altesse sérénissime le prince ont été longuement acclamés à la fin de la représentation. Voilà donc pour toute cette série d'opéras de Saint-Saëns qui ont été soit joués, soit créés sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo par notre orchestre. Et on va terminer par Massenet. Massenet, qui a eu lui aussi plusieurs opéras créés. Alors, Chérubin, en 1905, je me souviens qu'à la création de... Enfin, je me souviens avoir lu, parce que ce n'est pas un souvenir personnel, bien entendu, c'était en 1905. Je me souviens avoir lu que Colette était présente et elle avait même amené à la création de Chérubin un jeune pianiste qui venait d'arriver dans l'Europe de l'Ouest, qui était Arthur Rubinstein. Il était mineur et elle l'avait fait entrer clandestinement dans la salle des jeux. Et dans les souvenirs, Arthur Rubinstein raconte d'avoir été pris par la main par Colette le jour de la création de Chérubin pour être amené dans les salons de jeu. Voilà, donc, ça a été un grand succès. Ensuite, Thérèse, qui est de Massenet, hein, voilà encore un opéra qu'on a complètement oublié, qui raconte l'histoire de la Révolution française. Ensuite, Don Quichotte, hein, avec Chaliapine, qui a été donné ici à l'Opéra de Monte-Carlo, Roma, Cléopâtre, Amadis. Voilà toute une série d'opéras qui ne sont plus donnés maintenant, mais qui étaient donnés à cette époque-là sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'à la mort de Massenet en 1912. Massenet qui a eu sa statue, voilà, qui a été inaugurée en 1914. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de discours aussi lyrique que celui de Massenet pour l'érection de la statue de Berlioz. Et ben voilà, donc on a un petit peu fini ce panorama de la musique qui, sous Albert Ier jusqu'en 1911, c'est là-dessus qu'on s'est... Pour rendre hommage à Massenet, j'ai amené pour se faire plaisir le passage symphonique le plus célèbre de Massenet, même si l'opéra a été représenté ici à Monaco, mais ce n'est pas une particularité de Monaco, c'est Thaïs, et nous allons écouter pour terminer la méditation de Thaïs. Thank you. c'était la méditation de Théaïs pour évoquer les relations amicales entre le prince Albert Ier et le compositeur Massenet. Et ben voilà, nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Nous évoquerons la suite au-delà de 1911, au-delà de la révolution monégasque, la présence des ballets russes, l'opéra de Gabriel Fauré. Je remercie Raphaël Doublier pour sa brillante participation. Je remercie Monsieur de Cotigny d'avoir été là. C'est un honneur de parler devant vous. Et j'espère que vous avez toutes et tous votre billet pour le concert de demain soir, où il y aura la Symphonie du Nouveau Monde, que vous connaissez, le second concerto pour piano orchestre de Chopin, une déclaration d'amour de Chopin à une Polonaise qu'il aimait passionnément. Et puis en début de concert, la découverte d'un compositeur qui s'appelle Mieczysław Weinberg, que la chef d'orchestre, dont la chef d'orchestre nous a amené la partition. Et c'était un compositeur tout à fait intéressant, dont j'ai découvert qu'il a composé 500 œuvres. Alors, c'est vraiment prolifique, hein, qui était un ami de Shostakovich, qui a souffert également du stalinisme, puisqu'il était réfugié de Pologne en Russie. Et voilà, donc, c'est plusieurs pièces de son ballet qui s'appelle La Clé d'Or. Et c'est tout à fait intéressant de découvrir des musiques que l'on entend, je pense, pour la première fois à Monte-Carlo. Et si vous ne venez pas demain, vous pouvez aller entendre l'orchestre la semaine prochaine, soit à Dortmund, soit au Concertgebouw d'Amsterdam. Voilà, c'est le choix, soit demain, soit la semaine prochaine, en Hollande ou en Allemagne. Merci, monsieur de Cotigny, oui.
Dans le domaine de l'exploration du répertoire d'opéra de l'époque du prince Albert Ier, donc comme vous le savez, nous avons enregistré des Janières qui a eu énormément de succès, un succès de critique absolument exceptionnel. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de critiques sur un seul titre dans la presse internationale, non seulement la presse française, mais beaucoup la presse internationale, du Japon jusqu'aux États-Unis, et aussi l'ancêtre que nous avons enregistré aussi récemment, qui sera donné au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, en version de concert, l'année prochaine, la saison prochaine. Et aussi, je voulais vous signaler que nous continuons l'exploration du répertoire des œuvres les plus importantes d'opéra de l'époque d'Albert Ier. Nous avons décidé de programmer dans la saison suivante encore l'œuvre magnifique, un opéra magnifique de Saint-Saëns, dont vous avez parlé brièvement, Roma, qui est une pièce absolument extraordinaire sur le même livret que la Vestale de Spontini, mais que nous donnerons en version de concert et que nous enregistrerons pour continuer notre collaboration avec la Fondation Bruzal. Voilà.
Ah ben alors ça, je ne le savais pas, mais c'est ce qu'ils appellent une information exclusive pour nous, ici, aux conférences sur l'histoire de l'orchestre de Monte-Carlo et pour l'association des amis de l'orchestre. Merci et bravo. Ben continuez à nous faire découvrir tant de belles musiques. Merci, au revoir, à la prochaine fois.